À un homme d'image, nous allons parler de mots, des mots images. À la veille de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain qui se tient à Paris tous les ans depuis 45 ans, nous allons passer le temps de cette émission chez l'un des artistes les plus marquants de l'époque dont le nom est associé au mouvement des nouveaux réalistes, mouvement majeur des années 60. Aux États-Unis, il y a le pop art avec Warhol. En France, il y a Villeglay et quelques autres qui cherchaient à recycler le réel de façon poétique. Bonjour Jacques Villeglay.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre maison, qui est en même temps votre atelier. Je suis assez ému et assez impressionné de voir toutes ces affiches, de voir tous ces morceaux de bois, de voir ces châssis, de voir ces pots de peinture, ces pots de colle. C'est votre quotidien?
Oui, c'est mon quotidien. Je travaille entre mon appartement où je me repose et l'atelier où je travaille.
C'est un peu désordonné.
Oui, mais je sais où tout est. J'ai un secrétariat, vous voyez, il y a des boîtes, des cartons, etc. Les pièces étant petites sont pas nickel, ça je suis d'accord, mais c'est ainsi. J'habite au centre de Paris, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se dire qu'ils habitent au centre de Paris, parce que je fréquente Paris depuis 1944.
Oui, vous êtes un grand marcheur. Vous habitez ici depuis cette année-là, depuis 44?
Non, je suis arrivé dans ce quartier en 1959.
Ça fait quand même un bail.
Oui.
Alors, nous allons parler, si vous en êtes d'accord, de mots. Comment vous voyez les mots, vous, le plasticien?
Ce que j'ai vu en premier, un de mes premiers achats, c'est un livre de Blaise Cendrars, illustré par Fernand Léger. Donc, c'était des lithographies. Et les tableaux étaient avec des lettres. Auparavant, j'avais vu des tableaux cubistes de Braque avec de la typographie. Un jeune peintre se demande quel est le sujet qu'il peut introduire dans son œuvre. Et autant la femme guitare était démodée, si on la refaisait, la typographie restera toujours moderne et restera un élément qui se démode pas. Et j'aime l'écriture. J'ai été élevé chez les jésuites, alors où vous savez, tous les panneaux en chinois. Donc, ça m'intéressait de voir des caractères que je ne comprends pas. Donc, je voyais que l'écriture, il y avait l'école ABC, si vous savez écrire, vous savez dessiner. Et l'écriture, pour moi, ça comptait comme un dessin.
Donc, ça a été l'origine de votre passion et de votre travail, cette observation et ce désir de la typographie.
Oui, ça c'est quelque chose qui est imprégné en moi depuis 1943. J'avais 17 ans. C'était l'occupation.
J'aime souvent demander si... aux artistes, s'il y a un mot qu'ils aiment particulièrement dans la langue française, peut-être en avez-vous un, mais j'ai envie de vous demander quelle est la lettre qui vous plaît le plus, qui est la plus graphique.
Il y a des lettres qu'on peut multiplier, par exemple le O. Vous voyez, le O, c'est, vous mettez une croix grecque à l'intérieur, il devient un cercle. Vous lui mettez des flèches dans tous les sens. Il y a trois sens de flèche au moins avec le haut et qui voudra dire autre chose. Donc, j'ai été friand des graffitis dans la rue.
Alors, on reparlera de ces lettres et de cet alphabet, puisque vous avez inventé, Jacques Villeglet, un alphabet socio-politique. Mais revenons un peu sur cet espace, sur ces affiches qui nous entourent. Vous êtes connu, il y a un mot qui vous colle à la peau, c'est le mot « affiche » et « affichiste ». Et vous êtes connu depuis 1959, puisque je crois que c'était votre première expo, pour le lacéré anonyme.
Oui. Mais les affiches, c'est parce que pendant l'occupation, il y avait eu des publications sur les affiches. On n'avait pas le droit de parler du cubisme. J'avais compris que les affichistes transportaient les nouveautés de la peinture dans l'affiche. Ils se servaient du cubiste, de l'écriture, donc je me suis intéressé à l'affiche. Pendant l'occupation, on pouvait faire des livres, des publications sur les affiches contemporaines, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et les affiches contemporaines s'inspiraient du cubisme. Donc, je me suis instruit dès l'occupation de tout ça à travers ce que les gens qui voulaient informer se servaient.
Mais après, ces affiches, vous les avez arrachées.
Oui, parce que les affiches, j'ai compris que la déchirure, on était à l'époque du tachisme, de la peinture de vitesse, et une déchirure, c'est un geste qui se fait très très vite. Donc, j'ai comparé ça à la technique de la peinture. Un jeune artiste se demande « qu'est-ce que je vais peindre ?» Moi, je considère que ce que je cherche, c'est pas simplement ma sensibilité personnelle, c'est la sensibilité du monde. Et l'affiche, c'est quelque chose qui est dans la rue, et à la serrée, c'était quelque chose qui avait des rapports avec la peinture qui se faisait.
Donc vous avez pris ces affiches, vous les avez arrachées, vous en avez fait des tableaux sans intervention presque de votre part. C'est juste un choix, c'est votre regard.
Oui, parce que dans les affiches, on reconnaît ce qui se passe dans le dripping. Alors, ce qui est nouveau, c'est le comportement. Donc, je disais, je ne fais rien, je ramasse. Il y a le geste de Marcel Duchamp, le Redemède, mais c'est des objets indifférents, tandis qu'une affiche lacérée n'est pas indifférente. Une lettre déchirée, eh bien, ça parle tout de suite aux sentiments de l'homme. Donc, le plastique se mélangé avec la déchirure, il y a quelque chose de tragique quand même.
Vous avez appelé ça, Jacques Villeglet, je trouve ça très très beau, le bavardage des rues. Les affiches sont le bavardage des rues.
Le bavardage des rues, oui, parce que on ne connaît pas, on ne se rappelle plus des murs, des palissades des années 40 et début des années 50. Paris était, beaucoup de maisons étaient pas entretenu, donc il y avait des palissades devant parce que la maison était condamnée. Quand je suis arrivé à Paris, eh bien, la majorité des appartements n'avaient pas de toilettes. Ils étaient sur les escaliers. Donc, il y avait beaucoup de maisons qui étaient complètement rénovées. On démolissait planchers et tout, on gardait que les murs extérieurs. À ce moment-là, il n'y avait pas la foule qu'il y a maintenant dans Paris. On pouvait se loger aisément. J'ai connu des gens qui cherchaient un appartement. Ils ont eu à choisir 10 locaux dans Paris.
Mais alors, quand vous dites le bavardage des rues, ça veut dire que en fait, ces affiches sont un peu le participent du son de la ville, en fait.
Oui, parce que les palissades avaient 30, 40 mètres. Vous voyez, la palissade qui était la plus célèbre pour moi, c'était à côté de la coupole. Il y avait une palissade qui faisait 5 mètres de haut sur 35 mètres de long. Et il y avait des 4 sur 3 affiches comme ça, c'était extraordinaire. Et cette palissade, c'est que sans doute dans les fins des années 80 qu'on a construit à cet endroit-là. Parce que à Montparnasse, il y a plein de carrières, donc il fallait faire des fondations très profondes. Donc on utilise désormais les sous-sols, donc la coupole a pu construire sur son terrain.
Avec ces affiches, donc Jacques Villeglay, vous avez fait des séries, parce qu'il y a la couleur qui vous importe, l'agencement des couleurs, le rapport chromatique, mais il y a aussi le choix des lettres ou des mots qui apparaissent dans vos affiches. Il y a comme ça des séries qui sont très politique, avec des slogans des années 60 ou 70. Il y a eu aussi des séries où il y avait des noms de théâtre qui apparaissaient dans les tableaux que vous signiez. Est-ce que, pour vous, puisque vous êtes toujours un promeneur et un flâneur, est-ce que pour vous, la rue a changé entre les années 50 et aujourd'hui ?
La rue a changé par la télévision, parce que la télévision faisait de la publicité, de la réclame. Donc, les affiches devenaient secondaires pour cela. Donc, à ce moment-là, j'ai connu des palissades qui n'avaient que des papiers monochromes. Et personne n'affichait d'affiches parce que c'était devenu démodé. C'est à partir des début des années 80, que je savais que quand je prenais des affiches, eh bien, c'était les dernières affiches que je prenais.
Donc vous n'arrachez plus d'affiches ?
Je n'arrache plus d'affiches, mais j'ai voyagé à Marseille. Marseille sera la ville toujours bavarde, et les murs, il y aura toujours des affiches à Marseille. Donc j'allais en province, je ne travaillais plus à Paris.
Pierre-Henri, pour accompagner cette visite d'atelier chez Jacques Villeglay pour De Vive Voix sur RFI. Alors, on évoquait tout à l'heure, Jacques Villeglay, le nom du nouveau réalisme, qui est un mouvement structuré, qui a été signé. Il y a une déclaration constitutive du mouvement des nouveaux réalistes, signée le 27 octobre 1960 dans l'atelier d'Yves Klein. Est-ce que c'était une période excitante ?
Oui, c'était une période excitante. Il faut penser que quand le nouveau réalisme a été créé, 18 mois avant, j'avais fait un article qui s'appelait « Des réalités collectives » et qui a beaucoup inspiré Pierre Restany pour faire le nouveau réalisme.
Pierre Restany, qui est le critique qui a trouvé la formule de nouveau réalisme et qui a été très fédérateur.
Restany a eu l'intuition. À la première Biennale de Paris, il y avait trois événements. La peinture monochrome de Yves Klein, la machine à peindre de Tinguely et les affiches lacérées.
De Villeglay.
C'était les trois choses en 1959 qui ont fait que le pop art est arrivé par la suite. Il y avait le pop art anglais, mais qui était de petite dimension. Et c'est par la suite que les Américains ont créé le pop art à donner une grande diffusion à la peinture anglaise.
Recycler le réel de façon poétique, c'est souvent la formule qui est utilisée pour parler du nouveau réalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, parce que un mot lacéré évoque le mot beaucoup plus que lorsqu'il est lisible, parce que les gens cherchent à le deviner et la lacération, les peintres cherchent toujours quelque chose d'occulte dans leur sujet, parce que le mystère du tableau, ce n'est pas simplement bien dessiné, la bonne peinture et tout, c'est le mystère que raconte le tableau. Et il faut qu'on puisse toujours imaginer quelque chose de nouveau.
Jacques Villeglet, il y a le nouveau réalisme, il y a eu aussi à cette époque-là un mouvement très important qui s'appelle le lettrisme. C'est donc ce mouvement qui arrive après la Seconde Guerre mondiale, apporté notamment ou créé par Isidore Isou, et qui s'attache lui davantage au son. Vous n'avez jamais vraiment été lettriste, hein ? Mais vous étiez entouré de lettristes.
J'ai connu tous les lettristes. Les lettristes sont partis très très vite après la guerre, donc 12 ans au moins avant les nouveaux réalistes de Restany. Isou était un homme sympathique, mais trop autoritaire, qui voulait être le premier, etc. Mais ça a été le dernier mouvement littéraire et poétique qui soit. Déjà dans les années 60, le critique Charles Estienne disait « c'est la fin des ismes ». Et on le ressentait. Vous voyez, il n'y a plus à l'heure actuelle de mouvement qui surplante les autres. On ne sait pas quelle sera la tendance forte de notre époque, parce que on est une époque d'éclectisme total.
François Dufresne, dont vous avez été très proche jusqu'à sa disparition en 1982, a été, lui, lettriste. Il a adhéré au mouvement. Et j'aimerais vous faire écouter, mais vous connaissez ça par cœur, mais surtout faire écouter aux auditeurs ce que peut être une pièce sonore lettriste.
J'ai une comptine dans la rétine, j'ai 51 pour la rétine. Deux cantines dans ma malle arrière, trois cantas pour la malaria, et tu as Gargantua, quatre cantates quant à toi, plus une feuille d'acanthe pour la fabricante, et une feuille d'acanthe pour ta grande honte, toute prompte.
Jacques Villeglet, vous vous êtes jamais laissé aller, j'ai envie de dire, mais c'est pas vrai, c'est pas se laisser aller. Vous n'avez jamais fait de poème sonore comme celui-ci.
Non, parce que je suis sourd. Donc j'entends la musique, j'entends les sons, mais étant sourd, je n'ai pas vraiment la mémoire. Donc je n'ai pas une culture poétique et musicale vraie. J'ai du mal quelquefois à me rappeler quelque chose.
Et vous lisez de la poésie ? Enfin, de la poésie Baudelaire,
oui,
Rimbaud,
ça, oui. Très certainement. Pendant l'occupation, il y a eu quand même des livres de Baudelaire qui ont été publiés. C'était les éditions Marval qui faisaient des livres un peu en cachette.
Donc vous aimiez le poème, mais vous aimiez le livre aussi.
Oui, oui.
Je vous propose d'écouter, Jacques Villeglet, un autre artiste qui a écrit sur votre travail et que vous connaissez bien, je crois, qui s'appelle Arnaud Labelle-Rojou. Et il explique avec ses mots pourquoi vous n'êtes pas lettriste.
Alors, il n'est pas lettriste parce que d'une part, il n'a pas fait partie du mouvement lettriste, mais avec son ami Raymond Hinz, très tôt, il s'intéresse à la lettre, avec ce qu'il a appelé les périls éclatés, ou à travers des vers. Ils ont modifié l'écriture qui devient une espèce d'écriture très plastique. Ils ne sont pas lettristes parce que, pour eux, la lettre n'est pas un système qui qui va servir à développer différentes pratiques chez les lettristes. La lettre devient un système pour faire de la chorégraphie, pour faire de la peinture, pour faire de... Chez Viglet, c'est pas ça du tout, c'est l'ultra-lettrisme, c'est d'aller au-delà du système de la lettre pour se servir du langage et des mots, mais d'une façon un peu illisible, parasitée, complexe. Et quand on regarde d'ailleurs les textes qu'il écrit avec la fameuse sociopolitique, où on retrouve Faucille et Marteau, on retrouve la croix gammée, on retrouve le signe masculin ou le signe féminin, en même temps, c'est basé sur des textes qui deviennent comme une sorte de palinceps du premier texte, et donc le rendre illisible d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a quelque chose qui serait très contemporain, qui serait de le rapprocher de tous les graffeurs, les gens comme ça, qui utilisent le code de la lettre, du signe, d'une façon plastique.
Jacques Villeglet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue de Arnaud Labelle-Rojoux? Vous seriez l'un des premiers graffeurs?
Non, les graffeurs ont toujours existé, mais ce qu'il y a eu, c'est que la bombe a fait des graphismes beaucoup plus visibles. Autrefois, les graphismes étaient faits à la craie, donc ils disparaissaient très très vite, ou ils étaient tout petits, faits au crayon, au pinceau, etc. Mais avec la bombe, vous voyez tout de suite, ça éclatait. Si j'achetais une bombe à l'hôtel de ville ou au bazar de l'hôtel de ville, on m'a dit, ben, les murs vont être beaux après. Vous voyez, la bombe, c'est ça qui a fait marcher les graphismes sur les murs.
Mais est-ce que ça vous intéresse, ce que font les graffeurs, qu'ils soient anonymes ou certains maintenant commencent
oui,
à être
Vous voyez, il y a des groupes de peintres qui ont travaillé dans la rue. Eh bien, ils m'ont invité à participer à leurs fêtes, à leurs repas, parce que je fais le contraire d'eux. Je prends dans la rue, eux, ils apportent. Mais ça signifiait que c'était la culture de la rue. J'ai entendu des vieux surréalistes, Soupeau, qui parlaient avec un autre surréaliste en disant « Le mythe de la ville est en train de se perdre ». Et c'est faux. Le mythe de la ville, il changeait. Ce n'était plus les vieux quartiers, c'était dans la banlieue. C'est, vous voyez, tous les événements, eh bien, ça crée des mythes. Dès qu'il y a remue-ménage et tout, c'est ce qui fait les mythes, on va le voir. Mais eux, ils étaient dépassés parce qu'ils ne reconnaissaient plus le Paris de leur jeunesse.
On a dit de vous que vous étiez un grammairien de l'urbanité. C'est un peu savant comme ça, mais c'est joli.
Non, je ne suis pas un grammairien. J'ai toujours fait des fautes d'orthographe parce que j'étais sourd, très certainement. Donc un sourd, non, je ne suis pas grammairien.
Vous faites cette différence entre les graffeurs apportent quand vous vous arrachiez de la rue, mais maintenant vous apportez aussi dans la rue, avec notamment cet alphabet sociopolitique que vous avez inventé, on va en parler. Vous intervenez sur des façades de l'espace public.
Oui, parce que j'ai créé un alphabet, j'ai fait des lettres pochoirs. Donc je dois avoir 2-3 inscriptions comme ça dans Paris, en banlieue, en province. Dans les expositions, on fait des textes au pochoir sur les murs des salles d'exposition. Donc j'ai créé un alphabet.
Alors comment c'est né justement cette histoire d'alphabet? Parce que c'est les années 60-70 aussi, hein?
Vous savez, autrefois, pour créer un caractère, il fallait au moins un an. Il fallait avoir une maison d'édition qui s'intéresse à vous, un imprimeur, etc. Tandis que maintenant, avec l'ordinateur, on peut créer un caractère dans 2 jours, en 24 heures, on peut créer un nouveau caractère. Vous voyez, le rapport avec l'imprimerie a changé totalement. Autrefois, il fallait des capitaux pour créer un caractère. Maintenant, pop, pop, un type
vous
fait
le faites
ça
ici, dans votre atelier.
Oui, oui.
Alors racontez-nous le premier alphabet sociopolitique. Je crois que ça a commencé, là encore, dans le métro, non, cette histoire?
Oui, c'est dans le métro que j'ai vu Nixon passer à Paris. Il y avait des Nixon atomes écrits dans tout Paris. La police arrivait avec des chômeurs pour effacer ça, comme si Nixon allait se vexer. Il est habitué en Amérique, les chefs d'État, de recevoir des coups. C'est pas comme l'Europe. Et j'ai vu dans le métro le N écrit avec les trois flèches du Parti Socialiste de 1930, le I, la Croix de Lorraine, le X, la Croix gammée, le O, le cercle méditerranéen, avec la croix carrée romaine. Et à nouveau les trois flèches. Aussitôt, je me suis dit, je vais faire un alphabet sociopolitique. C'était en 1969.
Et donc, vous avez comme ça décliné toutes les lettres de l'alphabet.
Oui, alors les premiers, eh bien, il fallait que je recherche. C'était pas parfait. Maintenant, j'ai les caractères d'imprimerie, typographie et tout. Je peux faire même des livres comme cela.
Et vous en avez fait des livres avec cet alphabet?
J'ai
des
fait
tableaux, oui,
avec
mais...
un livre avec Le déshonneur des poètes, de Benjamin Perry. Donc, ça m'a fait réfléchir comment a-t-il écrit cela aussi vite. Alors, je pense qu'il avait un texte déjà écrit large, et puis il y a eu l'honneur des poètes de la résistance. Benjamin Perry, ne mélangeait jamais la politique avec la poésie. Il allait à une réunion de poésie, après il allait à une réunion de politique. Eh ben, il était politique, il était poète, mais il ne mélangeait jamais le poète avec le politique.
Alors que vous le mélangez un peu, parce que finalement, c'est un acte politique, cet alphabet.
Non, parce que je n'ai pas d'intention politique. Je fais comme un peintre qui, autrefois, dessinait les chefs d'État, les réunissait, c'était de l'information. Avec la peinture abstraite, je pensais qu'il fallait trouver, avec des moyens nouveaux, le réalisme. Et c'est pour ça que j'ai fait le réalisme collectif. J'ai pris l'écriture qui était sur les murs, et il y en avait un tout petit peu. Le Nixon, c'est après que j'ai trouvé le Nixon. Mais ce que je voulais, c'est revenir à une peinture collective qui intéresse quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la peinture.
J'appelle ça de la politique.
Voilà, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la peinture, qui vont s'intéresser à la peinture des années du romantisme, du consulat, parce que ça, c'est une vision de l'époque. Et moi, je voulais ramener, lutter. Tout le monde faisait de la peinture abstraite. Si j'étais peintre, c'était pour faire quelque chose que les autres ne faisaient pas.
Et puis il y a toujours, et c'est ça qui est formidable chez vous, Jacques Villeglay, une sorte de bonheur à voir vos tableaux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un bonheur de vous à les faire. Et vous dites souvent d'ailleurs que l'art est un jeu. Il y a toujours cette dimension dans votre travail.
Oui, parce que je travaille pas simplement avec mes sentiments, je travaille avec la collectivité. Je suis contre le peintre qui vit tout seul dans son atelier. J'ai organisé des expositions, j'ai été dans des salons responsable de groupes d'exposants. J'estime que l'art, c'est pas d'être enfermé chez soi, c'est de vivre avec les autres.
C'est du partage.
Le partage, oui.
Vous signez comment, Jacques Villeglay? Avec cet alphabet sociopolitique? Non, hein, c'est votre nom.
Je signe Villeglay, tout, et puis le monogramme, j'y vais.
Pas mal, j'y vais.
Voilà, exactement.
Un jeu de mots.
Oui.
Merci beaucoup Jacques Villeglet et merci de nous avoir reçus chez vous. Vraiment, c'était formidable d'être là, entouré de dans ce décor un peu vétuste, il est vrai, mais d'être entouré par toute cette matière qui fait le corps de votre travail. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Dugrand et Guillaume Ploquin à la réalisation. À très vite sur RFI.